c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Bergerac 95 avec Alain Jeanne. Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.
Et merci de nous rejoindre pour Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Bergerac 95. Des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre maintenant ensemble. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chute, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau numéro inédit de Chute, on écoute la télé en plein confinement. Mais on a fait le maximum pour vous offrir encore une belle émission. Dans un instant, on va faire un petit tour vers les audiences, évidemment, de la semaine dernière. Beaucoup de monde devant la télé en ce moment. Et puis, nous allons aussi bien vous faire découvrir des web-séries pendant quelques semaines. On va commencer aujourd'hui avec Le Cab, une web-série que je vous conseille et dont on va parler dans un instant avec son producteur Édouard Blondeau et également Anaïs Petit, l'humoriste et comédienne, eh bien, fait quelques apparitions dans cette web-série, ça s'appelle Le Cab, on en parle dans quelques minutes. Et puis nos coups de cœur télé cette semaine, également avec Emmanuel Dossé, le producteur de la série Une Belle Histoire, sera notre invité. Nous aurons le plaisir également d'accueillir Lola Devers qui sera avec nous pour le final d'Astrid et Raphaël, ça sera sur France 2. Ada Abdelli viendra aussi de nous parler de la drôlissime série Vestiaire diffusée tous les week-ends sur France 2 et ça fait du bien, des séries comme ça aussi. Et puis en fin d'émission, ça c'est un événement, nous allons recevoir Neil Dudgeon, c'est le héros de l'inspecteur Barnaby qui fait les belles heures des dimanches soirs de France 3. Et bien le héros Neil Dudgeon sera notre invité exceptionnel. Pendant cette émission, nous rendrons également hommage à Odile Schmidt, elle était la voix d'Eva Longoria notamment, une carrière de doubleuse absolument incroyable et de comédienne hors pair. C'était une amie de l'émission, elle a disparu la semaine dernière, nous allons lui rendre également hommage dans cette émission aujourd'hui.
Les tops et flops d'audience.
Et on démarre avec les audiences de lundi dernier. Les Bracelets Rouges avec 20,8% de part de marché et 5 684 000 téléspectateurs s'en sort très très bien. Meurtre au paradis sur France 2 fait un beau score également. 3 895 000 téléspectateurs et 15,5% de part de marché. Le Gendarme de Saint-Tropez, là aussi rassemble encore les foules sur M6 avec 2 961 000 téléspectateurs et 11,7% de part de marché. Secret d'Histoire fait un petit score sur France 3 avec 1 888 000 téléspectateurs et 7,5% de part de marché. Et puis hommage à Astérix, eh bien oui, à Albert Uderzo, c'était mardi dernier sur M6, Astérix Domaine des Dieux réussit l'exploit d'être en tête des audiences sur M6 avec 14,9% de part de marché et 3 800 000 téléspectateurs. Prodigal Son sur TF1 est deuxième avec 3 499 000 téléspectateurs et 13,9% de part de marché au coup d'un coude avec Le Prime de Plus Belle la Vie avec 3 452 000 téléspectateurs et 13,8% de part de marché. La soirée spéciale Ensemble avec nos soignants sur France 2 ne fait pas recette, seulement 1 362 000 téléspectateurs et 7% du public. Mercredi, Grey's Anatomy sur TF1, 15% de part de marché et 3 865 000 téléspectateurs. Top Chef arrive deuxième sur M6 avec 3 467 000 téléspectateurs et 15,1% de part de marché. Une Belle Histoire sur France 2 est troisième avec seulement 2 589 000 téléspectateurs et 9,9% de part de marché. Je vous conseille vraiment cette superbe série dont vous pourrez voir les deux derniers épisodes d'ailleurs mercredi. On en parlera tout à l'heure avec son producteur Emmanuel Dossé. Burger Quiz, Nana Chaba, 5,5% de part de marché, 1 503 000 téléspectateurs. C'est en tête des audiences de la TNT pour TMC. Et puis jeudi, il y avait Profilage. C'était les derniers épisodes avant une pause. C'est 4 741 000 téléspectateurs et 18,9% de part de marché. Mais attention, en embuscade, M6 était là avec 17,2% de part de marché. Why Woman Kill, la nouvelle série de Marc Chéry, le producteur des Desperate Housewives, arrive deuxième avec 4 498 000 téléspectateurs. Un score assez incroyable. Vous avez la parole sur France 2, 8,2% de part de marché. 2 047 000 téléspectateurs. Voilà ce qu'on pouvait retenir des effets marquants de la semaine dernière. Ce qu'on peut aussi noter, par exemple, eh bien, c'est la petite audience de 7 à 8, la quotidienne. Alors que Demain nous appartient fait les belles heures des audiences de TF1 avec quasiment 3 500 000 téléspectateurs chaque jour. Eh bien, 7 à 8, la quotidienne doit se contenter en moyenne de 2 200 000 téléspectateurs. Espérons que TF1 pourra retrouver sa série quotidienne rapidement une fois le confinement levé.
Le rendez-vous des stars, C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, coup de cœur sur une web-série aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé. On va parler de la web-série Le Cab. Moi, je vous le conseille, on est en pleine période d'élection municipale en plus. Et là, vous allez voir une web-série politiquement incorrecte. Et moi, j'adore. Voilà, je rigolais tout seul en regardant les épisodes. Et on a Édouard Blondeau, un des réalisateurs et scénaristes de cette web-série qui est avec nous. Bonjour Édouard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et Anaïs Petit, que l'on voit arriver au milieu de cette saison. Et Anaïs Petit, qu'on connaît bien évidemment pour son One Woman Show, et qui a parcouru la France entière avec son spectacle, ses spectacles, je dirais même. Bonjour Anaïs.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous tous les deux. Alors Le Cab, en quelques mots, Édouard.
Alors Le Cab, c'est l'histoire de Manu, un président de la République qui comprend pas pourquoi les Français l'aiment pas. Bon, alors du coup, Manu fait appel au cabinet noir de l'Élysée pour redresser sa cote de popularité. Et le cabinet noir a l'idée de prendre un cobaye pour tester les réformes et voir comment ce cobaye comprend les réformes.
Et c'est à ce moment-là que, effectivement, ce mec normal arrive.
Exactement. Et ce mec normal n'a pas forcément que des bonnes idées. Il connaît rien à la politique, il propose des choses très naïves qui s'avèrent amener des catastrophes encore plus grandes que ce qu'il pensait.
Alors, qui a eu l'idée, justement, de base de cette web-série ?
C'est moi. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire une série politique. Enfin, moi, je suis très, très intéressé par la politique. C'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et du coup, effectivement, comme je viens de l'humour, voilà, j'avais envie de faire quelque chose de très détourné, très, très sarcastique et très noir. Et grâce à François Fillon, j'ai eu l'idée de ce cabinet noir de l'Élysée. Merci, François.
Merci, François. C'est ça. Alors, ce qui est drôle, c'est que tu as gardé tous les prénoms, hein. C'est Manu et Manu, voilà. La République, alors, elle est plus en marche, année.
En randonnée, donc ce sont les randonneurs de la République, même Alexandre est là.
Tout le monde est là, toutes les figures. Alors Anaïs, tu arrives à quel moment, toi, dans cette fourmilière politique ?
Alors j'arrive au 5e épisode et je joue le rôle d'Audrey, qui est une représentante de la France indignée, on peut dire ça, voilà. Donc qui va vouloir infiltrer le cabinet noir, savoir ce qui se trame là-dedans.
Alors, tu as écrit un épisode, je crois, aussi, hein. Tu as participé au scénario.
Oui, c'est ça. Il y a un épisode que j'ai coécrit avec Édouard, effectivement.
Qu'est-ce qui t'a séduit dans l'aventure du Cab, toi ? Qu'est-ce que t'as aimé en premier lieu ?
Déjà, en lisant le scénario, je me suis marrée. Je trouvais que l'idée était bonne. Et puis, le personnage, je le trouvais très, très intéressant à jouer. J'ai senti que voilà, ça pourrait m'amuser de faire ce rôle-là. Donc, j'ai dit oui.
Édouard ?
Avec Anaïs, on avait déjà essayé d'écrire une web-série ensemble, des pastilles, et ça n'a pas marché. Enfin, c'est quelque chose que je chantais plus dans le ventre. Donc, enfin, de toute façon, comme c'est long à produire, faut toujours avoir les trucs que ça tienne aux tripes. Du coup, là, Le Cab est arrivé. J'avais ce personnage d'Audrey. J'ai fait tiens, Anaïs. Enfin, je la voyais bien dans cette côté militante enragée. Pour le coup, c'est une militante enragée.
On aurait pu appeler ça à France enragée.
Oui, mais ça faisait plus FI. Fallait que ça fasse quand même FI. Donc la France indignée, je trouvais que ça fonctionnait comme la République en randonnée, quoi.
C'est pas mal ça. Alors il y a 10 épisodes qui ont été mis en ligne, qui composent cette saison 1, tournée avec un épisode par jour. Donc ça n'a pas traîné, on va dire. Fonctionnement des web-séries, c'est pareil, c'est toujours aussi un marché compliqué, une économie compliquée. Donc voilà, on a toujours besoin effectivement de des fois des gens, avec des financements participatifs, des choses comme ça. Vous, comment a été financée un petit peu cette web-série ?
Donc en fait, ça a été surtout. Enfin, moi j'ai une structure de production, enfin par le biais d'une association, et donc c'est vraiment tout en fonds propres de l'association. Donc là, c'est pour le coup 100%, on va dire, production interne.
Et s'il y a une saison 2 ?
On espère.
Vous êtes en train d'y réfléchir, commencer à écrire ?
Alors oui, il y a j'ai les grandes trames, effectivement, qui sont posées. Après, j'ai également d'autres projets qui commencent à s'enchaîner. Du coup, je sais pas comment ça va s'enchaîner, mais oui, j'aimerais bien qu'il y ait une saison 2. Ouais. Surtout qu'il y a plein de choses à dire.
Bizarrement, quand on regarde la série, on t'imagine plus tous les matins pour t'inspirer, lire Le Canard Enchaîné plutôt que Le Monde.
Eh ben, je lis tout, en fait. Non, mais alors moi, je me fais une revue de presse qui passe du Figaro à l'Humanité, de Mediapart au Monde, pour avoir un point de vue global, je pense, sur la situation politique et de la société. J'arrive à tous les points de vue. Donc, je me limite pas au journaux satirique. Même si effectivement, j'adore Le Canard.
Anaïs, tes projets pour toi, est-ce que c'est pareil, on va te retrouver au théâtre, sur scène, est-ce qu'on va pouvoir te revoir également en spectacle bientôt ?
Alors oui, moi j'ai deux spectacles qui sont en tournée, j'ai mon One Woman Show qui s'appelle Addiction, dans lequel je fais quelques imitations mais aussi des personnages que j'ai inventés et des chansons au piano, le tout, bon c'est que des personnages accros à quelque chose, voilà, comme le dit bien le titre. Et puis j'ai une pièce de théâtre qui s'appelle Tous nos amis sont là, dans laquelle deux imitateurs arnaquent des stars. Et on est 3 sur scène. C'est pareil, c'est en tournée et il y aura peut-être quelques dates aussi sur Paris. Puis j'ai d'autres projets aussi en écriture, plus de scénarios. Donc voilà, ça c'est en route et voilà, je vous dirai quand il y aura du nouveau.
En tout cas, dévorez maintenant les 10 épisodes de la série Le Cab. On peut retrouver ça sur YouTube, c'est simple. Il y a une chaîne à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Le Cab, tout simplement.
Exactement. Donc, la chaîne, c'est Le Tekel Rieur, en fait.
Le Tekel Rieur.
Oui, c'est la structure de production. Il s'appelle Le Tekel Rieur. Donc, il y a une chaîne du Cab sur Le Tekel Rieur.
Ben allez sur Le Tekel Rieur, abonnez-vous et regardez donc Le Cab, épisode 1 à 10. Et on va vous faire découvrir un petit extrait sonore du premier épisode. Je suis sûr que ça va vous donner l'eau à la bouche pour aller voir la suite. Merci à tous les deux.
Merci.
Monsieur le Président,
ils m'énervent ces crétins. Ils comprennent jamais rien à ce que je fais.
Ah, c'est pas faux de leur expliquer.
Et celui avec sa pancarte, Manu, président des riches. Ils arrivent pas à se mettre dans le crâne que plus les riches sont riches, plus la corde est longue et plus la montagne est haute. Et plus la montagne est haute, plus nous nous approchons du trottoir d'en face. Mais non, ça, ils comprennent pas.
Manu, faut vraiment que t'arrêtes avec tes métaphores. Ça peut être mal interprété. C'est pas des lumières.
Bien sûr qu'ils sont cons comme leurs pieds. Si seulement on pouvait savoir ce qu'ils ont dans leur petite tête, hein.
On a que les infiltrer.
Très bon, on les infiltre. Mais à l'envers, comme une chaussette qu'on retourne. Vous allez recruter un de ces pouilleux, tout ce qu'il y a de plus normal, ici, au sein du cabinet. Ce sera notre cobaye pour voir comment ces pecnos comprennent nos réformes.
Bonjour. Je suis très heureux de vous présenter le cabinet noir de l'Élysée. Beaucoup de bruit, beaucoup de rumeurs, mais qu'en est-il vraiment? Ce n'est pas, comme certains insinuent, une bande de barbous assoiffés de sang, mais une team compétente au service de la démocratie française et internationale. N'est-ce pas, Denis?
C'est Elsa, monsieur le président. Le CAB est le dernier rempart contre la barbarie. Alors bien sûr, ça demande parfois d'éliminer quelques opposants politiques, de corrompre certains dirigeants, de former les enfants soldats...
Ah oui, on fait tout ça, nous.
Elle s'appelait Odile Schmidt. Odile Schmidt était la voix française d'Eva Longoria pour le rôle de Gabrielle Solis dans Desperate Housewives, mais pas que. Il y avait aussi le doublage de l'actrice américaine pour la série Les Feux de l'Amour, ou encore ses spots publicitaires pour L'Oréal ou Magnum. Odile Schmidt a été la voix aussi de personnages de dessins animés très connus comme Tao, des mystérieux Cité d'Or ou Tom dans Les Mini-Pousses et Lottie aussi dans Princesse Sarah. Elle s'occupait également du doublage de Katerina dans Hartley Cœur à Vif et plus récemment de Pam Field dans Pretty Little Liars. En mai 2012, au studio Dubbing Brothers à la Plaine Saint-Denis, Télé Loisirs avait pu la rencontrer à la fin du doublage des deux derniers épisodes de Desperate Housewives et nous avions pu aussi l'interviewer. Je vous propose de réécouter un petit extrait de l'interview d'Odile Schmidt. C'était maintenant, il y a quelques années, dans Chut, on écoute la télé.
Alors, c'est arrivé tout bêtement. Un jour, un monsieur très très gentil de la Columbia, qui s'appelle Gérald, a proposé plusieurs noms de comédiennes pour passer un essai sur Les Feux de l'Amour. Et donc, je faisais partie de ces noms-là. J'ai passé un essai pour Les Feux de l'Amour, et je les ai eus. Et c'est Arlette Thomas, c'est celle qui faisait Titi, la voix originale à la base de Titi. Et Arlette Thomas m'a dirigée, et tout ça, et elle m'a tellement bien dirigée que j'ai eu les essais sur Les Feux de l'Amour. Et à partir de là, j'ai doublé Eva Longoria. Mais quand elle a quitté Les Feux de l'Amour pour arriver sur Desperate Housewives, et j'ai repassé un essai où on était quelques-unes et j'ai eu à nouveau. Donc voilà, j'étais très très contente.
Qu'est-ce qui vous amuse dans Gabi, dans le personnage de Gabi?
Moi, ce que j'aime dans le personnage de Gabi, c'est d'abord qu'il ressemble à aucun autre personnage de Desperate Housewives. Cela dit, chaque personnage est bien différent, hein. Mais le sien particulièrement, parce que avoir en face de soi, être marié à une femme jolie, certes, intelligente, certes, mais d'une telle mauvaise foi, ça, c'est pas évident à vivre, mais elle est tellement rigolote. Ils ont tellement bien écrit ce personnage que ça devient un plaisir de vivre avec ce personnage de mauvaise foi, quoi.
Odile Schmidt qui s'est éteint donc d'une longue maladie dont elle luttait depuis maintenant plusieurs mois. On va continuer d'ici quelques instants donc Chut, on écoute la télé avec Emmanuel Dossé, le producteur de la série Une Belle Histoire. Lola Devers également va être notre invitée. Ada Abdelli aussi va être avec nous pour la série Vestiaire. Et puis Neil Dudgeon, je sais que vous l'attendez tous, le héros d'Inspecteur Barnaby sera avec nous en fin d'émission. Alors surtout, vous ne bougez pas, on revient juste après ça, tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Indiscrétion, scoop.
Scoop.
News.
News.
Tout de suite, l'infomédia.
Et de retour dans Chute en écoute la télé avec donc l'infomédia de cette semaine. La mini-série Preuve d'innocence dévoile les drames personnels résultant de 8 erreurs judiciaires dénoncées par l'organisation à but non lucratif Innocence Project et les organisations du réseau Innocence qui travaillent sans relâche pour la révision des procès. La série de 9 épisodes se compose de 3 parties, les preuves, les témoins et l'accusation. C'est à découvrir dès le 15 avril prochain sur la plateforme Netflix. Produite et réalisée par Lise Garbu, nommée aux Oscars ainsi que par Alex Gibney et Roger Ross William, tous deux lauréats d'un Oscar. Ces histoires révèlent des vérités choquantes sur les terribles manquements du système judiciaire des États-Unis notamment, tout en montrant que lorsque des innocents sont condamnés, ce sont de nombreuses vies qui subissent d'irrémédiables dommages. Ceux qui sont emprisonnés à tort, leurs familles, les victimes des crimes et la confiance de la population dans la justice sont également brisés par ce système aussi implacable qu'aberrant. L'an dernier, l'incendie de Notre-Dame de Paris provoquait une vague d'émotions à travers la France. Émotions parmi les religieux, les chrétiens, mais pas seulement pour certains. Au-delà d'un lieu de culte, c'est une partie du patrimoine français qui partait en fumée. Pour comprendre pourquoi, sans faire de victimes, cet incendie a tant choqué les Français. Pendant un an, les équipes d'un reportage diffusé donc le 12 avril prochain à 13h30 sur TF1 ont suivi ceux qui ont été les plus profondément touchés. Ceux qui, à l'intérieur de la cathédrale, se sont mis en tête de tout reconstruire. Et ceux qui vivaient pour Notre-Dame et qui se retrouvent aujourd'hui à l'extérieur, exclus de leur propre monde. Grâce à eux et avec des accès exceptionnels, l'équipe de ce document a pu suivre de l'intérieur la sécurisation puis le début du chantier de Notre-Dame de Paris. Ce chantier est tout sauf ordinaire. Philippe Villeneuve, l'architecte en chef à la rosace de Notre-Dame, tatoué sur le cœur. Il veillait déjà sur Notre-Dame avant l'incendie. Le destin lui a donné une mission inimaginable. Sauver celle qu'il aime tant. Je ne dors plus, je ne pense qu'à ça. Oui, je ne vis que pour ma cathédrale. Quand j'étais gosse, j'étais déjà fou de Notre-Dame. J'avais une maquette dans ma chambre, alors je me dis que toute ma vie d'avant incendie m'a préparé à vivre ce moment que je vis aujourd'hui. Alors les cordistes sont des hommes forts et agiles qui passent leur temps en suspension dans les airs. Ils vont être en première ligne pour enlever l'échafaudage brûlé et soudé par l'incendie qui pèse 300 tonnes et dont les tubes cassent comme du verre. Personne ne sait comment va réagir cette espèce de mikado géant. Grégory Vacheron, le chef des cordistes: je n'ai jamais fait ça, moi, m'attaquer à un truc aussi instable, c'est inédit. Christophe Rousselot dirige la fondation Notre-Dame et sa vie à elle aussi était transformée par l'incendie. Il se voit démultiplier les dons et aussi les besoins en argent frais que les travaux réclament aujourd'hui. Il va à Genève à l'occasion de la vente aux enchères au profit de Notre-Dame d'une médaille en or extraordinaire estimée à au moins 50 000 euros. Et pendant ce confinement, de nombreux artistes vous donnent rendez-vous chaque jour sur leurs réseaux sociaux comme Patrick Bruel, Christophe Maé, Mika et plein d'autres encore qui vous offrent des sessions acoustiques de leurs meilleurs titres, histoire de passer le temps et surtout de rester connecté avec leurs fans. Une belle façon aussi de rendre hommage à leurs fans et de leur rendre tout ce que leurs fans leur donnent en concert en étant face caméra avec eux juste tout seul, voilà, rien que pour vous. Alors ça aussi, c'est un joli rendez-vous qui vous est donné donc chaque jour. Surveillez bien les réseaux sociaux de vos chanteurs préférés. Et parmi les titres que l'on va développer tout au long de la semaine dans la quotidienne, on parlera des déprogrammations des après-midi d'M6 et de Profilage, du documentaire Sauver Notre-Dame bientôt sur France 2, de la série Réunion qui fait son arrivée bientôt également sur France 2, du dispositif spécial pour la messe de Pâques sur France Télévisions et enfin de l'arrivée de la saison 8 de Candice Renoir.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et dans les coups de cœur télé de ce lundi, ce soir, c'est les Bracelets Rouges, la suite de votre série, saison 3 inédite, avec le 5e épisode inédit ce soir, où Mehdi est dans l'attente d'informations concernant l'état de santé de son grand-père, qui a dû être opéré en urgence. Tandis que l'opération de Clément est reportée, Roxane, de son côté, est prise à l'essai en tant que serveuse dans le bar de sa mère. Voici tout de suite la bande-annonce.
Vous êtes de la famille de Monsieur Camille Soko ?
Oui, c'est mon grand-père.
Il n'y a pas d'adulte avec vous ?
Non.
L'opération s'est bien passée, il est en salle de réveil.
C'est carré.
Pour l'instant, on le garde en observation. On va voir comment tout ça évolue.
Pourquoi ? Il a quoi ?
Il a fait un infarctus. Et on a dû lui faire un double pontage coronarien. À son âge, c'est pas anodin.
Je peux aller le voir ?
Oui, on va venir vous chercher.
Et demain mardi, c'est Le Meurtre à Bride-les-Bains qui va être diffusé. Un téléfilm d'Emmanuel Rigaud avec Lynn Renaud, Patrick Catalifo, l'histoire de Gabriel, journaliste qui s'est installé sur les hauteurs de Bride-les-Bains. Son mari, parti du village il y a 10 ans après avoir été accusé de meurtre, est découvert mort. Une bonne fiction avec de bons acteurs et puis toujours le plaisir de voir Lynn Renaud évidemment à la télévision.
À Bride-les-Bains, on a beau être le meilleur enquêteur de la région.
Faut fouiller le lac, vous en occupez.
Ça va être sympa avec lui.
Ouais.
On n'en reste pas moins un enfant.
Maman,
tais-toi. Et avec une telle mère...
Maman, écoute, assieds-toi. Quand c'est moi qui vais parler.
Il va falloir garder les nerfs solides.
Vous avez envoyé une équipe perquisitionnée.
J'ai prévenu votre mère, hein, évidemment.
Très solide.
Mais est-ce que quelque chose peut se passer dans cette ville sans que ma mère y soit mêlée, non ? Hein, c'est dingue, ça.
À Bride-les-Bains, c'est maman Lynn Renault qui mène l'enquête. Ce soir à 21h, sur France 3.
Allez, coup de cœur télé, vous en avez pris l'habitude, hein, chaque mercredi, on en parle. Et on a soutenu cette série depuis ses débuts, c'est une belle histoire. Qui va voir eh bien, son final, mercredi soir à 21h05 sur France 2. Et pour terminer, eh bien, la série d'interviews qu'on a consacrée à la série, eh bien, c'est le producteur délégué Emmanuel Dossé qui est en ligne avec nous. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je dirais qu'en plein confinement, en pleine actualité tellement difficile, cette série tombe à pic. Elle fait un bien fou. Pendant 4 semaines, voilà, on oublie chaque mercredi soir un peu les soucis du quotidien et on se retrouve eh bien attaché à ces trois couples qui font cette histoire une belle histoire. Alors là, comme j'ai la chance d'avoir le producteur avec nous en ligne, la première chose que j'ai envie de demander, Emmanuel, qui a eu l'idée originale de cette série ? Comment est né ce projet ?
En fait, ce projet, il est né durant un village français. Le travail d'un producteur, c'est d'accompagner des auteurs. Et Frédéric Crivine, qui a créé un village français avec Philippe Tribois et moi, et je le connais bien puisqu'on a vécu une longue période d'occupation tous les deux. Et au fur et à mesure du travail sur un village français, on a découvert qu'au fond, cette série parlait aussi des couples lorsqu'il s'est agi de penser à qu'est-ce qu'on allait faire après l'occupation, après la guerre. On a pensé à une guerre un peu plus intime qui est le couple. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur ce projet avec Frédéric.
Une série beaucoup plus contemporaine, hein, finalement, hein, qu'Un village français, vraiment.
Oui, on a eu la chance de vivre cette aventure d'un village français et le soutien du public et des critiques et de vous, d'ailleurs, durant toutes ces années. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait après ? C'est le syndrome du deuxième album. On ne voulait surtout pas refaire une série en costume, une série sérieuse, comme était un village français. Au fur et à mesure de toutes ces années aussi, je connais bien l'écriture de Frédéric Crivine et je sais qu'il a beaucoup d'humour dans ses dialogues. Et je me disais qu'il est une approche de l'humanité aussi très intéressante. Et je me disais qu'il serait parfait pour faire une comédie romantique en ne faisant pas une sorte de suite d'un village français. D'où la volonté de faire cette série très, très contemporaine, très moderne, très dans la comédie aussi.
Alors comment vous avez pensé vos trois couples ? Que ce soit ceux de David et Charlotte, de Philippe et Caro, celui de Jojo aussi ?
D'une certaine manière, ces trois couples à différents stades de leur évolution. Le couple de David et Charlotte, ils se rencontrent. Le couple de Georges et Malika, ils attendent un enfant. Et le couple de Philippe et Caroline, ils sont plus installés. Ils ont deux enfants, donc c'est déjà trois typologies différentes. Et Frédéric Crivine et les auteurs de l'atelier, aidés aussi par la consultante en psychologie Violaine Bollet, qu'on appelle la psynariste, ont développé des personnages qui sont des couples qui sont aussi très, très différents dans leur mode de fonctionnement. Au fond, la série parle de qu'est-ce qu'on doit abandonner de soi ou oublier de soi pour qu'un couple dure. Et ces trois couples, c'est chacun une réponse différente. David et Charlotte, ce sont des personnalités très entières et ils vont essayer de faire couple sans trop abandonner d'eux-mêmes. Là où Georges et Malika, par exemple, oublient beaucoup d'eux-mêmes pour tenir.
Emmanuel, on a vu donc les 6 premiers épisodes. Les 2 derniers vont se concentrer beaucoup sur le couple de David et Charlotte, puisque David va partir pour refaire de l'alpinisme, chose qui avait commencé de façon dramatique dans la série, jusqu'au moment où un accident va survenir. Va-t-il en revenir ? Va-t-il ne pas en revenir ? Est-ce que le couple va survivre à cette épreuve ? C'est toutes les questions qui vont se poser dans ces 2 derniers épisodes qu'on va voir mercredi.
Oui, c'est ça, c'est cette première saison, c'est vraiment une comédie romantique. Un couple se rencontre, ils doivent surmonter des premiers obstacles. Pour David, il doit d'une certaine manière faire le deuil de son premier amour pour pouvoir se projeter à nouveau dans une histoire d'amour avec Charlotte. Pour Charlotte, elle doit elle aussi se séparer de celui qui l'a accompagnée, mais aussi un peu enfermée depuis 10 années. Et puis, les 2 derniers épisodes, c'est comme classiquement dans une série romantique. Alors que le couple est enfin réuni, un événement les sépare. Vont-ils se retrouver à la fin de la série ? J'ai quand même un indice à donner aux téléspectateurs, c'est que ça s'appelle Une belle histoire. Et que bien qu'il y ait de l'ironie dans ce titre, il n'y a pas que de l'ironie.
En tout cas, je vous promets quand même une happy end. Ça fait du bien en ce moment. Alors, moi qui ai vu la fin, les dernières scènes de fin, évidemment, avant tout le monde. Moi, la question que je me pose tout de suite, mais à quand la suite, Emmanuel ?
La suite, on est déjà en train de l'écrire. Hein. L'atelier d'écriture s'est déjà réuni. Beaucoup d'idées très fortes, puisque est très intéressante, je crois, puisqu'il s'agira de décrire maintenant comment est-ce que ce couple qui s'est rencontré, et je spoil un peu quand même, comment ce couple qui s'est rencontré va réussir maintenant à cohabiter, hein, ce qui est une autre question. Dans les contes de fées, on dit ils se marièrent, vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Et en fait, la série va explorer. Oui, mais dans le détail, ça se passe comment? Parce que les contes de fées, c'est bien beau, mais comment ça se passe vraiment dans la réalité? Après, la commande de la saison 2 dépendra aussi de l'audience. Les audiences ont été à la fois très bonnes sur le premier soir et puis un peu moins bonnes par la suite. Cette période de confinement est pas très... Il y a beaucoup de monde devant la télévision, mais il y a beaucoup de monde qui regarde aussi des chaînes de la TNT. Enfin, Canal Plus est en clair en ce moment. Donc c'est une période un peu perturbée, disons, pour les audiences. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt, j'espère, pour la saison 2 d'une belle histoire.
Eh ben, merci beaucoup en tout cas, Emmanuel, d'avoir été avec nous. Et une belle histoire, c'est le final. C'est mercredi, c'est à 21h05 sur France 2. On ne le rate pas, bien évidemment. Et on va se quitter avec la bande-annonce. Merci beaucoup, Emmanuel. À bientôt.
Merci, au revoir.
Je vais faire le cadeau cet été.
Faut que je te dise que tu vas vachement me manquer et aussi que je t'aime.
1000 balles ? Regardez un paquet.
Il a déjà gagné 5000 euros. Bientôt, il gagnera plus que moi.
Police, à partir de maintenant, vous êtes en garde à vue.
C'est pas vous qu'on veut, c'est Yacine.
La dame de tout à l'heure, quelle chambre? Mais tu te rappelles que t'es ma femme? Et que t'es dans une chambre d'hôtel avec un autre homme, là?
Ils viennent d'annoncer une tempête dans l'Himalaya.
Je flippe.
J'en ai toujours aucune nouvelle de la cordée où se trouve David Borten.
Merde!
Avec, je crois, Rachida, des nouvelles qui ne sont pas très bonnes.
L'hélicoptère l'aurait vu à 7500 mètres. Trois corps, semble-t-il, immobiles.
Allez, coup de cœur télé consacré à Astrid et Raphaël. On en a parlé chaque semaine depuis le lancement, après le lancement réussi en mars l'année dernière. C'est une saison complète que nous avons pu vivre. Et c'est peut-être pour vous l'occasion, en plein confinement, de revoir les 6 premiers épisodes avant de découvrir vendredi, le final. Et on a fait le début avec Sarah Mortensen qui joue Astrid. On va faire la fin avec Lola Devers qui joue Raphaël Coste. Bonjour Lola.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Alors ce confinement, comment ça se passe Lola?
Ben, ça se passe très bien, très très bien. Je suis avec une super copine, on a décidé de passer le confinement ensemble. Et c'est super, on chante toute la journée, on lit des bouquins, on mange beaucoup, on fait des jeux de société. Le seul petit problème, c'est que nous sommes restés à Paris et on n'a pas de grand jardin pour se défouler, mais on fait avec.
Bon, on va voir le final, vendredi, de Astrid et Raphaël. Alors, première question que j'ai quand même envie de te poser avant d'attaquer Astrid et Raphaël, Lola, toi qui as tourné dans Peur sur le lac, quand tu vois ce qui se passe en ce moment, est-ce que tu imaginais un scénario comme ça à l'échelle du monde? On pouvait pas imaginer qu'il puisse se passer ça un jour.
Non, je crois que personne, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé un peu bête dans l'eau, parce que personne, je crois, n'a pu imaginer ce qui allait se passer. Ça relève vraiment d'un film, c'est complètement surréaliste ce qu'on vit. Et en même temps, il y a quand même des scientifiques, des docteurs, des écolos qui parlent quand même de ça depuis des années, qu'à un moment donné la Terre va se rebeller. Mais évidemment, quand c'est encore loin dans nos esprits, c'est forcément loin. En même temps, on n'était pas prêts, mais en même temps, ça m'étonne pas, quoi. Je veux dire, alors le pourquoi du comment, de comment est sorti ce virus, il y a des polémiques. Moi, je crois aussi que c'est une sélection naturelle et que la Terre se rebelle et que bon, je veux pas imaginer un scénario complètement catastrophique, hein, mais c'était un peu écrit, quoi, pour moi.
En tout cas, Peur sur le lac a été vraiment précurseur. C'est vrai que quand on regarde la série aujourd'hui, elle a plus du tout la même résonance qu'en janvier. C'était seulement il y a 3 mois. Et il faut pas l'oublier. Bon, en tout cas, Astrid et Raphaël, c'est une autre histoire. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu les 6 premiers épisodes, qu'est-ce que tu aurais envie de dire, Lola, aux téléspectateurs pour qu'ils se jettent sur les 2 derniers vendredis?
Eh bien, je regarde pas forcément ce que je fais, les films et les séries dans lesquelles je tourne. Et là, je me suis un peu fait violence et j'ai regardé. Et moi, j'ai vachement aimé. Donc, en tant que spectatrice lambda, moi, j'ai vachement accroché. Et je suis vachement difficile. Hein, je suis vraiment pas bon public et tout. Et c'est vraiment un duo de femmes atypiques de par les traits de caractère d'Astrid, qui est interprétée par Sarah Mortensen. Moi qui suis une flic border, mais on en a vu des femmes flics border rentre dedans et tout, mais je trouve que mon personnage, il est quand même écrit, enfin je trouve ça très original, quoi, vraiment moi j'ai beaucoup d'admiration et de reconnaissance pour les auteurs, quoi. Parce qu'ils sont vraiment partis chercher des trucs. Enfin, c'est très singulier, quoi. Voilà, c'est une série qui est très singulière. Et puis on apprend beaucoup de choses sur l'autisme. Enfin, en tout cas, ce que je peux vous dire de mieux, c'est que moi, qui suis très mauvais public, eh ben moi j'adore. Voilà, c'est Raphaël. Voilà.
Dis-moi, est-ce que Sarah, des fois, par moment, en tournant des scènes, a pu te déstabiliser par son jeu?
Alors, au début, oui. Parce que jouer avec une personne qui vous regarde pas dans les yeux, enfin qui, en plus, elle arrive merveilleusement bien à faire ça, c'est qu'elle a vraiment les yeux qui tressautent et qui regarde ailleurs, partout, sauf moi, quoi. Ou alors elle regarde ses pieds, ou elle regarde à côté. Elle a un débit qui est très saccadé, donc c'est très impressionnant et c'est très déstabilisant. Mais il y a toujours un truc qui passe. Ça veut dire que c'est vraiment une vraie comédienne avec énormément de générosité. Donc même si elle joue quelqu'un qui est loin, loin dans une autre sphère, elle est toujours avec vous, quoi. En tout cas, elle est toujours avec moi. Moi, je sais pas, questionner ses autres partenaires, mais en tout cas, même avec cette différence de jeu, enfin très singulière, je me suis jamais sentie seule. Déstabilisée au début, mais jamais seule.
Au fur et à mesure que vous partagez des scènes ensemble, parce que vous partagez 80% quasiment des scènes toutes les deux sur la série, il y a une histoire d'amitié aussi qui a pu naître entre vous deux. Est-ce que vous connaissiez avant la série aussi?
Non, on ne se connaissait pas. La seule chose qui nous rapprochait, c'était que sa mère a connu mon père, je crois, dans les années 70, si je me souviens bien. Il me semble qu'ils ont fait du théâtre ensemble et ils étaient plutôt assez copains. Voilà, et c'est vrai que la première fois que j'ai rencontré Sarah, donc Sarah me raconte cette histoire. Donc je trouvais ça assez dingue. Et oui, et je crois aujourd'hui que je peux dire que ouais, Sarah est une amie, quoi. Et vraiment, il y a une amitié qui s'est développée. Alors c'est marrant parce qu'on est nés le même mois, à quelques jours d'intervalle, la même année. Et on pourrait se dire, du coup, ce sont des caractères qui se ressemblent. Mais on est à l'opposé, et physique, et au niveau du caractère. Et pourtant, en tout cas en ce qui me concerne, pour moi, Sarah, je la considère vraiment comme une amie aujourd'hui. Ouais, ça c'est sûr.
Quelle a été ta plus belle scène ou une scène qui restera marquée pour toi au Fer Rouge, pour le coup, sur cette première saison?
Alors moi, en ayant maintenant tout regardé, parce que du coup, j'ai été complètement happée, moi, par cette série, donc j'ai vu tous les épisodes, ça y est. Moi, ce qui m'a vraiment touchée sensiblement, quoi, c'est... Alors, c'est pas une scène avec moi, c'est une scène avec Sarah et Gaillard, où Sarah pleure et elle explique qu'elle en peut plus, enfin Astrid pleure et elle explique qu'elle en peut plus, qu'elle n'arrive plus à s'adapter au neurotypique, mais qu'elle est capable de faire du boulot. Et moi déjà, quand on tournait cette scène, bon moi j'avais fini ma journée, Sarah a continué, mais j'aime bien, moi j'adore, je suis complètement fan de Sarah, donc j'étais venue regarder quand même, je m'étais changée et tout, et puis j'étais venue regarder derrière le combo, comment elle jouait sa scène justement avec Gaillard, et j'en avais pleuré, quoi. Donc du coup, vous savez, il faut un silence d'or sur les plateaux, sinon l'opérateur du son pète un câble, et moi je pleurais tellement, je reniflais, je me mouchais, et donc du coup, on n'entendait que mes reniflements et mes moucheries, mais j'ai complètement fondu derrière le combo, quoi. J'ai trouvé cette scène extraordinaire, extrêmement touchante.
Et t'as été évacuée du plateau, du coup?
Non, mais bon, j'ai eu un regard un peu noir des gens autour, mais en même temps qui étaient d'accord avec moi. Ils disaient, oui, mais bon, Lola, tu peux pas te moucher comme ça. Voilà. Mais ouais, c'était d'une force, vraiment. Moi, je suis complètement fan du personnage d'Astrid et du jeu de Sarah. Je trouve ça incroyable. Donc, pour moi, ça a été vraiment la scène la plus marquante. Après, entre nous, je trouve que toutes les scènes, un peu comiques, drôles, enfin, tout est hyper joli, tout est... Enfin, moi, j'adore ce duo, quoi. Mais vraiment, je suis pas langue de bois. Tout m'a ému de tout ce que j'ai joué avec Sarah, vraiment.
Le succès a été là l'année dernière. Je pense que le public ne s'y s'est pas trompé. Il vous a relancé pour une saison de 8. Je pense que c'est bien parti pour qu'il y ait une saison 2, vu les scores d'audience que ça fait en ce moment, avec 5 millions de téléspectateurs. Donc ça aussi, c'est une surprise pour toi d'avoir autant de monde qui regarde la série, parce qu'on peut imaginer un succès avec 3-4 millions de téléspectateurs, mais 5 millions, c'est carrément un carton.
Ouais. Bon, après, l'époque et le moment que... Le moment dans lequel on vit, là, c'est un peu particulier. Donc, évidemment, tous les gens sont chez eux.
Bien, vous avez passé un super moment. Moi, je vous le dis en regardant. Alors, n'hésitez pas à aller voir les 6 premiers épisodes en replay si vous ne les avez pas vus. Encore, Astrid et Raphaël, les deux derniers, c'est vendredi. Et ça sera à partir de 21h05 sur France 2. En plus, on aura de la chance puisque le vendredi 10 avril, on pourra revoir le pilote également de la série qui sera rediffusée. Comme ça sera tout à fait complet. prête pour une saison 2 du coup, hein. La question se pose pas.
Écoute, on peut, tu sais, dans ce métier, dans ce milieu, on peut avoir toutes les surprises de la terre. Donc, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, mais ça sent bon. Voilà.
C'est une bonne chose. Juste avant le confinement, je crois que tu étais en tournage, Lola.
Absolument, j'étais en tournage près de Montpellier à Saint-Affrique pour un Crime A. C'est une collection France 3, donc tu vois, on est juste passé entre les gouttes. Avant le confinement, on a réussi à finir la série. Voilà, et je vais aussi attaquer le 20 avril le deuxième opus de Mansalor, mais qui a été annulé. Mais on a quand même réussi, voilà, à terminer ce Crime A. On a eu de la chance, on est vraiment passé entre les gouttes, ouais.
Et la suite de Mansalor qui, du coup, est repoussée pour l'instant?
C'est repoussé pour l'instant, ouais.
Bon, à suivre,
je
bien
sais pas
évidemment.
Quand, mais on croise les doigts pour que ça se fasse vite. Voilà.
Bon, on se tient au courant, bien évidemment. Tu sais, Lola, t'es toujours la bienvenue dans notre émission.
Ah ben, j'adore ton émission, Alain. Merci beaucoup.
On t'embrasse très très fort. La fin d'Astrid et Raphaël, c'est vendredi, c'est 21h05. Et ne le ratez pas, c'est sur France 2. À bientôt, Lola.
Bisous tout le monde, à bientôt.
Et prends soin de toi.
Merci.
C'est William. Il vient d'apprendre une nouvelle. Son frère est mort. Il doit se rendre à l'Institut médico-légal pour identifier le corps. Voulez-vous venir avec moi?
Oui, bien sûr.
C'est bien lui, c'est Paul, mon grand frère.
C'est arrivé comment?
Arrêt cardiaque par collapsus, c'est ce qu'on vient de m'expliquer. Le plus incroyable, c'est que ça s'est passé à un colloque médical. Pendant la pause déjeuner, plusieurs médecins sont intervenus, immédiatement ils l'ont...
Votre frère était médecin aussi?
Hein? Oui, dans la recherche. Ah, les gens de l'Institut médico-légal m'ont demandé de lui apporter une tenue, j'ai oublié d'y aller.
Non, laissez William, je vais le faire, si vous voulez bien.
Allez, vous les retrouvez pour une saison 9 inédite tous les samedis soirs sur France 2. Ils nous font bien rire, il faut dire, dans ces vestiaires. Vestiaires saison 9, Ada Abdelli qui est justement avec nous. Bonjour Ada.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ada, c'est une aventure incroyable. C'est-à-dire que là, on partait pour une, deux, allez, la troisième saison c'était bonus, on est rendu à la 9. T'imagines une aventure comme ça?
Ah ben non, mais clairement non, mais on n'était même pas sûr de faire un épisode, nous. C'est devenu le projet oui, parce qu'en fait, on nous a dit oui à tout ce qu'on a demandé. Moi, je vous dis chaque saison, je le répète, mais c'est vrai, chaque fois que je finis une saison qu'elle est diffusée, je me dis, bon, ben, on peut pas aller plus haut. Et en fait, il y a toujours un événement qui fait qu'on va plus haut.
Mais là, il faut fêter les 10 ans maintenant.
Là, il faut fêter les 10 ans, ouais. Et du coup, peut-être qu'il y aura plus que moi dans le vestiaire pour les 10 ans. Je pense qu'il faut recentrer tout sur moi pour cette 10e année.
Alors on y retrouve évidemment Alexandre Philippe, Anaïs Fab, enfin tous ceux qui ont fait le succès de la série. Et c'est vrai que il faut dire quand même que dans vestiaire, tous ceux du départ sont toujours là. Il y a vraiment cette fidélité. Souvent, quand on a 9 saisons, on a souvent des comédiens qui sont partis entre les deux. Eh bien, vous, toute l'équipe est au complet.
Nous, non seulement toute l'équipe est au complet, mais en plus, elle s'agrandit à chaque fois. Parce que là, on a Christophe Luder qui nous a rejoint. On a Théo qui est un athlète en e-sport. Donc, l'équipe s'agrandit, mais c'est vrai que le noyau reste le même. Et du coup, on se dit, avec Fabrice qui est mon co-auteur, on a voulu créer un vestiaire fictif. Et en fait, ça devient un vrai vestiaire avec une vraie équipe. Mais qui nage pas. Ça se voit à nos ventres qu'on nage pas.
Comment se renouveler, justement? Ça doit pas être évident avec Fabrice Chanu, justement, qui coécrit avec toi. Comment vous renouvelez au niveau de, voilà, au niveau de l'écriture, au niveau des intrigues, au niveau des sketchs?
Bah, d'abord, il faut beaucoup de génie, de talent. Et ce qui est mon cas, j'ai réuni les deux, donc c'est beaucoup plus simple pour moi. Mais c'est vrai que pour les gens lambda, c'est plus compliqué. Non, mais ce qu'on dit,
on
c'est.
On peut pas tout avoir, hein, tu me diras, hein.
Clairement. Non, mais je pense que vraiment, l'idée de voir la vie sous le prisme de l'handicap, en fait, il y a toujours quelque chose. Il se passe toujours quelque chose, c'est toujours décalé d'un cheveu ou d'un poil, mais c'est décalé et ça nous fait un épisode. Et on se régale, donc il y a beaucoup d'épisodes qui sont inspirés du réel et d'autres, bon, on est dans la fiction, donc c'est bien d'imaginer des choses aussi. Et puis on est aussi aidé par pas mal d'autres auteurs maintenant.
Je pense que aussi, ce qui fait la longévité et le succès aussi de cette série, c'est certainement qu'on rit aussi du handicap, vous savez rire du handicap, vous savez faire rire du handicap, et ça fait toute la différence.
Je pense, oui, il y a cette idée de quand vous rencontrez quelqu'un qui a le sourire, déjà, ça vous débarrasse de pas mal de trucs, tu vois. Et nous, on a tendance à dire, c'est pas parce qu'on en rit que c'est pas grave, mais c'est parce que c'est grave qu'il faut en rire. Et j'adore cette phrase parce qu'elle est de moi.
Mais ça aussi.
Je trouve que c'est une très belle phrase.
Alors, tu as été jury il y a maintenant quelques jours au Festival de Luchon, des créations télévisuelles. Premier rôle de jury, je crois, pour toi.
Dans un festival aussi grand, oui. Figure-toi que là, ça a commencé en début d'année. Là, j'ai été contacté par, c'est plutôt la fin de l'année dernière, par un festival de Paris qui me proposait de venir. Et c'était, je trouvais ça très touchant parce que c'était un petit festival. Ils avaient pas beaucoup d'argent, mais c'était vraiment chouette. Et puis quand j'ai reçu l'invitation pour Luchon, ben, j'étais encore plus heureux parce que si tu veux, c'est voilà, on est vraiment maintenant dans la place de ceux qui écrivent, qui jouent. On est comédien, on est auteur. Et puis que le handicap vient après. C'est-à-dire on écrit sur le handicap, mais c'est pas ce qui nous définit le plus. Et c'est ce qui me rend le plus heureux. Ouais, je pense que c'est ce qui me rend le plus heureux.
La saison 10 est déjà sur Iran.
Ouais, on a quasiment fini l'écriture.
Ça va tourner quand?
Ben, on espère comme chaque année entre mai et juin, donc de cette année 2020 et saison 10. Voilà, donc déjà c'est incroyable de dire ça et c'est même prétentieux, mais on est à la limite de réfléchir à la saison 11.
Toujours en Nouvelle-Aquitaine, tournage?
Ouais, toujours en Nouvelle-Aquitaine depuis 7 ans et c'est une histoire d'amour incroyable. C'est une région incroyable, il y a un accueil qui est hors norme. Et puis en 7 ans, on s'est rendu compte qu'on a tissé des liens, mais vraiment très très forts avec l'équipe technique. Et voilà, il est pas rare qu'on se voit après le tournage, qu'on s'invite à des mariages, aux anniversaires. Et il y a pas longtemps, on a vu des photos et puis on a vu des photos de nos copains bordelais, de leurs enfants, tu vois, 7 ans après, et c'est très très émouvant. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Ouais.
Alors là, on vous retrouve pour la saison 9, là, tous les samedis soirs, hein, juste avant le prime de France 2. Quels sont les guests que vous avez reçus? Parce que alors, vous en avez reçu des guests prestigieux, hein, entre Clémentine Célarier et plein d'autres. Je peux vous dire qu'il en est passé au vestiaire, c'est le cas de le dire.
Ah, il en est passé, ben notamment la plus célèbre, on a eu évidemment Brigitte Macron. C'était juste un épisode qui est hors norme et hors du temps.
Parce que ça fait parler d'ailleurs celui-là.
Ouais, il a fait énormément parler, dans les deux sens, en bien et en mal. Mais il a quand même fait, on a quand même eu des articles au Japon et en Allemagne, c'est pas rien. On a vraiment eu une presse internationale, mais incroyable. Et les guests cette année, ben, on a eu la chance et le bonheur d'avoir avec nous Thierry Lhermitte, qui a accepté de faire 3 épisodes. On a évidemment toujours Clémentine Célarier, Pascal Légitimus, on a Théo, et on a les gens du vestiaire qui sont encore là, donc on est vraiment, ouais, c'est une grande famille. Et en fait, nous, quand on a des guests, quand ils arrivent, ils restent. Et donc, ils font partie de la famille après.
Bon, quel est le guest rêvé pour la saison 10? Lequel tu rêverais, là, après avoir eu Brigitte?
Vraiment, et alors c'est complètement fou, donc ça n'arrivera pas, mais c'est pour ça qu'il faut le dire, et c'est en même temps le privilège de vestir. Je penserais que c'est Barack ou Michelle Obama.
Ah, ce serait beau.
Bah, il défend, en plus, on a entendu dire qu'il défend. Enfin, moi, j'ai lu dans un article qu'ils étaient très, très axés sur le handicap et sur ce qu'il y avait autour du handicap. Et je pense que pour leur bien, pour leur notoriété, ce serait bien qu'ils viennent chez nous. Hein.
Écoute, le message est lancé. Merci à toi, Ada, d'avoir été avec nous, vestiaire. Je vous rappelle, c'est tous les samedis. Et c'est à 21h sur France 2. Merci à toi et à très vite.
Merci, merci, à très bientôt. Au revoir.
Et on se quitte pas comme ça. On va avoir tout de suite un extrait de vestiaire, parce que vestiaire, c'est ça.
Eh, hey, pas de valide pendant les heures réservées au handi. Allez. Allez, allez, allez. Ah, mais tu serais pas un peu intégriste, toi?
Bah, il a raison. Si tu t'ouvres pas aux autres, comment veux-tu qu'ils viennent vers nous?
Salut, les gars. Salut, Caro.
Salut, kiné.
Dites, j'ai un petit souci.
Bah, vas-y, accouche.
Bon, voilà. Ma mère avait pour habitude de garder les gamins du quartier quand j'étais ado, et du coup, j'étais un peu leur grand frère. Et il se trouve qu'il y en a un qui est de passage en ville aujourd'hui, et il m'a demandé s'il pouvait venir s'entraîner dans la piscine.
Mais ça dépend, il est handi?
Non.
Eh ben, c'est non. C'est pas l'armée du salut ici.
Orson, puisque c'est un copain d'Olivier.
Non, pas de passe-droit.
Mais non, mais il vous dérangerait pas, il prendrait juste une moitié de ligne d'eau.
Oh. Qu'est-ce qui se passe, Kiné?
Non, rien, c'est juste que...
Bah, qui s'est déjà engagé, voilà quoi. Hein?
Bah ouais.
Allez, c'est l'événement dans un instant. Nel Dudgeon, le héros de l'inspecteur Barnaby, fait son arrivée dans Chut, on écoute la télé. Alors surtout, ne manquez pas ça, à tout de suite.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé, revient dans un instant, à tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, c'est un événement aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. C'est une des séries les plus populaires sur France 3. Et on a la chance, eh bien, d'avoir Nel Dudgeon qui est avec nous. Bonjour Nel.
Bonjour.
Et c'est la saison 21 de l'inspecteur Barnaby qui est lancée sur France 3. C'est un événement, je le disais, parce que maintenant, cette série dure depuis plus de 22 ans. Vous avez repris le flambeau à la saison 14. Comment vous sentez-vous avec le succès de cette série depuis maintenant plus de 22 ans qu'elle existe en Angleterre et en France par la même occasion?
Well, it's very pleasing that the show has gone on. I'm very surprised that I'm still here, I suppose. I used to watch the show as a fan before I joined the show, and I loved it. But when I was asked to join the show, I certainly didn't think it would go on as long as this. I thought maybe one series, or I had no idea. You wouldn't, as an actor, you never think I'll do this job for several years. You expect everything to stop kind of next week. So yeah, it's wonderful that it's gone on, and wonderful that people in France still love the show, and around Europe and around the world, people seem to still be loving the show. So that's very pleasing.
Donc c'est très agréable, bien sûr, de faire partie d'une série qui est aussi populaire, mais c'est également une surprise. Je suis très heureux d'en faire partie. J'étais fan de la série avant d'en faire partie, mais bien sûr, je ne m'attendais pas, lorsque j'ai été engagée pour jouer ce rôle, à y rester aussi longtemps. En tant que comédien, on n'y pense jamais. On pense qu'on va faire une série, peut-être deux, mais pas plus. Donc c'est une histoire merveilleuse.
Alors, vous êtes venu présenter cette saison 21 en avant-première en septembre dernier au Festival de La Rochelle. Vous avez pu mesurer la popularité de l'inspecteur Barnaby auprès de vos fans français. Est-ce que vous avez été surpris justement de l'accueil quand vous tournez, vous, en Angleterre? Est-ce qu'on peut imaginer que la série peut être aussi bien accueillie dans d'autres pays et que cette culture anglaise s'exporte comme ça aussi bien?
I've been to France 3 or 4 times as Barnaby, doing things like the festival in La Rochelle, and it's wonderful that your show translates to other countries, other languages, and as you say, not just France, but really all across most of Europe and America, Australia. So that's fantastic. Why that is, I can never really figure out. I suppose there's something that people see it as very British in a way, that other nationalities and other cultures have an idea of what constitutes being very British, and that somehow we correspond with that. I always imagine that different cultures see it differently, and some think, I don't know, I imagine people watching this in North Korea thinking, this is a documentary of life in Britain, that it's gone horribly wrong, everybody's trying to kill each other. And other people think it's sort of the silly English, you know, messing about in the countryside or something. But I guess whatever pleasure people take from the show is all good.
Donc je suis venue 3 ou 4 fois en France pour présenter la série, et c'est toujours fabuleux de voir à quel point justement les gens peuvent s'y identifier. Mais c'est surprenant pour moi également de voir que ça se traduit bien au niveau de la culture et de la langue. Et c'est populaire non seulement en France, mais ailleurs en Europe, aux États-Unis et en Australie. Pourquoi? Eh bien, je ne sais pas vraiment. Peut-être parce que c'est très british, que ça correspond à l'idée que les gens se font de la Grande-Bretagne. Mais j'imagine des fois les gens en Corée du Nord, par exemple, regarder cette série et se dire que c'est un documentaire et le reflet véridique de la vie en Angleterre, où il y a beaucoup trop de meurtres et tout va mal. Mais sinon, je pense que c'est ça, que ça correspond à l'idée que les gens se font de la vie en Grande-Bretagne.
Vous vous êtes déjà entendu doubler dans d'autres langues et voir votre série avec une autre voix que la vôtre. Et qu'est-ce que ça vous a fait? Ça vous a fait rire?
No, I've never seen any of this. People say to me, "Oh, we'll get you a disc or a tape or something of that, so you can see it." But I've never actually seen never heard who is dubbing me into any other languages. I imagine it's quite a strange thing to see. But I'd like to, how is the man who does me in France, does he have very golden tones?
Non, honnêtement, je n'ai jamais vu d'épisode doublé. On m'a dit à plusieurs reprises qu'on allait me procurer un enregistrement, mais ça s'est jamais fait. J'imagine que ça doit être une expérience assez étrange, et je me pose la question, il est comment l'acteur qui me double en français? C'est comment savoir?
Bon, il y a encore pas mal de meurtres à venir dans ce comté. Tant que vous êtes là, pour les résoudre. Vous voyez encore longtemps dans la peau de cet inspecteur Barnaby?
I don't know. It all depends on whether other people want me to go on doing it, really. I've been doing it. We're doing another series next year, 2020. That'll be the 22nd series, I think. So I'll have been doing it then for 10 years, which seems a long time to do any job for an actor. I can't really imagine that I'd voluntarily leave, though. I think they might have to force me out at some point. But no, it's such a lovely job to do. We film in beautiful places. We have wonderful people come and do the show. And as long as people love to watch it, we'll carry on loving doing it. I don't know what other things I would want to do if I wasn't doing this, really. So I'm very happy to go on as Inspector Barnaby.
Je ne sais pas vraiment, ça dépend des autres, si je continue ou si je ne continue pas. Je sais que cette année, en 2020, je vais entamer donc la 22e série, donc ça fera 10 ans que je joue ce rôle. C'est assez inhabituel pour un comédien, mais non, volontairement, je ne vais pas quitter ce rôle. J'y prends trop de plaisir, en film, on tourne dans des endroits magnifique, je travaille avec des gens très 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 agréables. Et qu'est-ce que je ferai d'autre de toute façon?
Merci d'avoir été avec nous pour présenter cette nouvelle saison qui arrive sur France 3. Nel, on vous souhaite plein de belles choses pour la suite et puis que la saison 22 soit bonne en tournage pour que nous on puisse la découvrir et bien l'année prochaine.
Thank you very much. It's a very great pleasure to be here in La Rochelle. It's very beautiful and people have been very kind and very hospitable. And thank you to everybody for your support of Midsummer Murders. And yes, let's hope it goes on for a few more series and I hope you continue to enjoy them. Thank you very much.
Donc, merci beaucoup. C'est un très grand plaisir pour moi d'être à La Rochelle, cette très belle ville. Et ça a été très agréable de rencontrer des gens, de découvrir que la série était populaire en France. Et merci beaucoup pour votre soutien. J'espère que ça va continuer longtemps.
Merci beaucoup et merci à Leslie pour la traduction. Voilà, ça nous a fait très plaisir en tout cas de vous recevoir. Merci à vous.
Merci.
Merci.
Fred, regarde. Sors de l'eau en vitesse. Prends ma main, vite. Vite, je te dis. Dépêche-toi.
C'est bien ce à quoi je pense, là.
Oui. C'est Ahab. Le monstre du lac.
Lundi prochain, dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain, dans Chute, on écoute la télé, eh bien, on va continuer à vous proposer encore de jolies choses. Et puis, côté web-fiction, ça sera la web-fiction paillasson qu'on vous présentera avec Constance Labbé, notamment, que vous avez pu adorer dans la série Camping Paradis, par exemple. Et puis, nous aurons le plaisir de recevoir également Bernard Lecoq pour le téléfilm Vivre sans eux, sans oublier, évidemment, plein d'autres surprises. En plein confinement, on lâche rien. On est là pour vous proposer une belle émission chaque semaine. Alors, eh bien, restez connectés avec nous.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé.
Sans oublier nos applications sur iPhone et Android, Chute, on écoute la télé. Quant à moi, je vous retrouve demain à 11h40 sur Bergerac 95 pour la quotidienne et sans oublier le grand retour de l'Edo lundi prochain à 20h. D'ici là, je vous souhaite une très très belle soirée à l'écoute de nos programmes et je vous dis à demain.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.